Vivre FM, la vie des associations, podcast.
La vie des associations reçoit aujourd'hui sur Vivre FM l'association Asteria et Blandine Sillard pour nous en parler. Bonjour Blandine.
Bonjour.
Vous êtes chargée de développement et vous êtes également l'une des cofondatrices de cette association qui est toute jeune, hein?
Oui, elle a à peine plus d'un an.
À peine un an. Donc, le reste est à venir encore. Mais quand même, au bout d'un an, vous avez fait un certain nombre de choses. On va en parler. Qu'est-ce que c'est que Asteria? Si je vous donnais une à deux phrases pour décrire Asteria, vous feriez comment?
Alors, Asteria, c'est une association qui a été créée en 2014 et dont l'objectif est d'accompagner les personnes qui ont envie de s'engager. De manière générale, et notamment celles pour qui c'est un peu plus difficile que d'autres.
Alors ça veut dire que vous allez avoir du boulot, parce que des personnes décidées à s'engager, je crois qu'il y en a de plus en plus. Et ça, c'est plutôt un bon signe pour notre pays. Si vous dites qu'il faut aider ces personnes, ça veut dire que certaines personnes ne savent pas comment s'y prendre. Comment on peut aider justement des personnes qui ont envie de s'engager bénévolement, en s'entendant pour une association par exemple?
Bah, nous, c'est un peu notre constat qu'effectivement, il y a plein de personnes qui ont envie de se rendre utiles, qui ont envie de donner un sens à leur vie, à leur parcours, qui ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans la société aujourd'hui, que ce soit économiquement, socialement ou écologiquement, et qui ont envie de faire quelque chose, qui savent pas toujours à qui s'adresser, comment s'y prendre. Il y a des plateformes qui existent, qui permettent de trouver certaines missions, qui sont très adaptées à certaines personnes, mais pas à tout le monde. Et puis, il y a surtout parfois un manque de culture ou de connaissance de ce milieu-là, oui, qui peut créer certaines craintes, certaines a priori. Et nous, ce qu'on fait, c'est de désamorcer tout ça.
C'est ça, parce qu'il ne suffit pas de se dire qu'on a envie de s'engager. Ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais encore faut-il savoir dans quel sens et comment on va pouvoir le faire. Et c'est là où ça frotte parfois.
Bah, c'est ça. En fait, une association ou un collectif citoyen ou une coopérative ou autre, c'est comme toute autre organisation, c'est comme une entreprise, c'est comme même comme une famille ou un groupe d'amis. Ça a une culture, ça a ses codes. Quand on connaît pas, qu'on arrive, on se retrouve parfois avec des personnes qui se connaissent déjà ou qui maîtrisent ces codes que nous, on maîtrise pas. Et on peut être un petit peu perdu et on peut y aller et ne plus jamais revenir. Et c'est bien dommage.
Et finalement, oui, c'est contre-productif alors qu'au départ, on était parti avec de très bonnes intentions.
C'est ça.
Ouais. Alors, au bout d'un an déjà, vous avez, compté le nombre de projets que vous avez aidé à amener à bien. Vous avez un petit peu calculé ça?
Oui, alors, c'est toujours un petit peu difficile de mettre des barrières parce que nous, on propose un accompagnement qui est très, très individualisé. Donc, ça peut aller d'une aide très, très ponctuelle et on peut voir une personne pendant quelques jours ou quelques semaines à un suivi beaucoup plus long pour des personnes qui sont peut-être moins autonomes, qui ont plus des difficultés, qui là vont qui peuvent aller jusqu'à plusieurs mois.
Mmh. Oui, ça veut dire qu'il y a un suivi, ça veut dire qu'effectivement, il y a des projets que vous avez commencé peut-être à initier lors de votre naissance et qui se perpétuent, que vous continuez à suivre. Et puis, il y en a d'autres, finalement, pour qui ça a été beaucoup moins long et que les personnes qui sont venues à vous ont très vite compris la façon dont elles pouvaient procéder pour mener à bien ces projets.
C'est ça. On a des personnes qui veulent aussi simplement participer à un projet, s'engager dans une association en faisant du bénévolat et qu'on met en relation avec une association qui cherche des bénévoles et qui correspond à ce moment-là à ce que la personne a envie de faire. Ça, c'est pareil, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre un peu plus de temps. Grosso modo, je dirais qu'on l'a, sur notre année de lancement, donc vraiment au tout début, alors qu'on commençait avec rien du tout, on a accompagné une cinquantaine de personnes.
Pas mal.
Au tout début.
Est-ce que vous vous orientez politiquement? Est-ce que vous êtes orienté? Est-ce que vous acceptez tous les projets citoyens? Par exemple, un quartier, je ne sais pas, le quartier du 16e, avec des habitants qui voudraient empêcher l'installation d'un site pour migrants. Est-ce que vous accepteriez de les aider, justement, à monter leur projet?
Alors, les règles qu'on s'est fixées, c'est les notions de solidarité, de tolérance et d'ouverture. Donc les projets qu'on soutient, c'est des projets qui apportent un mieux-être et qui sont ouverts à tous et à tout ce qui n'excluent pas une partie de la population.
C'est ça. C'est pas le mieux-être au détriment effectivement de certains.
Voilà.
C'est en faveur de tous.
C'est ça.
Mais pas au détriment de certains, donc par conséquent. D'accord.
Et qui n'excluent pas une population sur des critères, alors évidemment qui peuvent être raciaux. Genrés, des critères liés à la sexualité de la personne, par exemple, des choses comme ça, mais aussi liés à la situation économique ou à des problèmes sociaux.
Donc vous êtes plutôt à gauche, on peut dire ça?
Bon, on se positionne pas tellement en termes de gauche-droite, on se positionne en termes de solidarité
Vous êtes très jeune, pour l'instant, vous n'avez pas refusé de projet, vous n'avez pas eu ce genre de problème.
Oui, c'est encore. Ça, il n'y a pas eu jusqu'à présent de problème, il n'y a pas eu de question à se poser, est-ce qu'on aide ce projet, est-ce qu'on ne l'aide pas ou...
Non, généralement, on est très clair dans notre manière de présenter les choses. On est sur des projets solidaires, d'entraide, ouverts. Les personnes qui viennent à nous ont bien compris ça. Et la plupart du temps, leur demande correspond à cet esprit-là. Alors, envie d'agir, comme on dit, correspond à cet esprit-là. Mmh.
Vous avez des exemples de ces projets que vous avez aidé à amener à bien, ou même des projets que vous continuez à suivre, parce que justement, ça n'est pas terminé.
Alors, on a vraiment deux cas de figure. Il y a l'accompagnement de personnes qui portent une initiative, qui portent un projet, et on a l'accompagnement de personnes qui n'ont pas forcément envie de porter un projet, mais qui ont envie de contribuer. Mmh. Notre rôle dans les deux cas, c'est le même, c'est de les mettre en lien avec l'acteur qui sera le plus compétent pour les aider à avancer.
Quand elles n'ont pas forcément de projet en tête, mais qu'elles savent qu'elles veulent, agir solidairement, vous les aidez à contacter des associations, vous les questionnez, j'imagine, sur leurs envies.
Exactement, on les questionne sur leurs envies, alors le champ dans lequel elles ont envie d'intervenir, ou les compétences ou les talents qu'elles ont envie de mettre en œuvre. On les questionne sur des choses très concrètes, leur disponibilité, est-ce qu'elles sont prêtes à aller loin de chez elles ou est-ce qu'elles veulent rester à proximité, voilà, plein de petites choses comme ça. Certaines difficultés aussi peut-être de langage ou que des personnes peuvent avoir, ou des difficultés très matérielles. Et puis on regarde un petit peu dans le monde de l'engagement aujourd'hui qui a besoin de quoi. Alors il y a des associations qui ont besoin de bénévoles, il y a des coopératives qui ont besoin d'adhérents, il y a des collectifs citoyens qui sont pas formalisés, qui appellent pas ça ni membres, ni bénévoles, ni adhérents, mais qui ont besoin de gens pour les rejoindre. Et en fonction de ce que la personne nous a dit, on met ces deux mondes en lien. Et mettre en lien, ça signifie pas simplement passer les contacts de l'un et de l'autre de chaque côté, c'est aussi préparer cette rencontre. C'est-à-dire préparer la personne qui a envie d'agir au monde dans lequel elle va rentrer. Comme je le disais, les associations, les collectifs ont leur code et leur culture, et on explique tout ça. Et c'est aussi préparer le collectif ou l'association en question au fait qu'une nouvelle personne va arriver, et que ouvrir ses portes, ouvrir ses rangs, c'est pas si évident que ça. Et qu'il faut former la personne, qu'il faut lui expliquer comment ça fonctionne chez nous...
Oui, je voulais vous demander, donnez-nous un exemple concret, puisque là c'est très intéressant, mais on a du mal à visualiser un exemple concret qui a été mené à terme, par exemple.
Alors, je vais citer des exemples sur les deux pans. Sur des personnes qui portent un projet, on a une personne qui voulait réaliser des ateliers vidéo pour des personnes handicapées, des personnes valides, enfin des ateliers vidéo qui mêlent les deux publics, donc 20% de personnes handicapées, 80% de personnes valides, avec la production d'un film à la fin. Et l'idée est de faire durer ce projet sur un an, de le reproduire tous les ans, et puis dans 10 ans, on aura 10 films et on organise un festival.
Et pour l'instant, ça suit son cours, ça y est, c'est fait, les premières vidéos vont pouvoir sortir.
Ça suit son cours, les porteurs de projets sont en contact avec des partenaires qui leur apportent soit un soutien financier, soit un soutien technique, local, matériel vidéo, etc. Et là, les ateliers devraient commencer à la rentrée.
Et donc, ça avance considérablement et favorablement. Oui. On va continuer à parler de vous, évidemment. Vous allez continuer à parler, vous, d'Astéria, vous, Blandine Sillard. Vous allez le faire après une pause musicale sur Vivre FM.
Jusqu'à 11h, la vie des associations sur Vivre FM.
Aujourd'hui, dans la vie des associations sur Vivre FM, place à l'association Astéria et à Blandine Sillard, qui est cofondatrice et chargée de développement, pour nous en parler. Alors, il y a deux types d'aide que vous apportez aux personnes qui sont désireuses de s'engager bénévolement dans des engagements plutôt solidaires, en engagement citoyen, comme on dit aujourd'hui. Il y a les personnes qui savent très précisément où elles veulent aller, elles ont un vrai projet. Et puis, il y a les autres, celles qui désirent s'engager bénévolement, par exemple, pour une association, mais qui ne savent pas exactement dans quelle mesure elles peuvent le faire, vers qui elles veulent aller. C'est bien ça?
Oui, tout à fait.
D'accord. Pour ce qui est justement de l'engagement bénévole qui n'est pas très précis, on sait qu'on veut s'engager bénévolement. Comment vous faites pour faire en sorte de mettre en lien et les personnes qui sont demandeuses et les associations qui sont, elles, en recherche de ces bénévoles? Vous avez des partenaires déjà?
Alors, quand la personne arrive, quand la personne nous sollicite, soit parce qu'elle nous sollicite d'elle-même, soit parce qu'on est intervenu dans un établissement ou autre et qu'on l'a repéré de cette manière-là, on lui propose un accompagnement individuel, donc des rendez-vous en tête-à-tête. Le premier rendez-vous, c'est vraiment le rendez-vous qui est crucial. C'est celui où on l'interroge sur ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle sait faire, pourquoi elle veut le faire, voilà, des questions très pratico-pratiques aussi, des contraintes qu'elle peut rencontrer. Et après, on va chercher, dans notre réseau existant, qu'on ouvre aussi, hein, on va chercher des associations au cas par cas, parfois. Donc, soit dans notre réseau existant, on sait qu'il y a un besoin qui correspond et qu'il y a une association, mais pas qu'une association, ça peut être aussi un collectif citoyen, ça peut être aussi une coopérative. Enfin, voilà, il y a vraiment des structures avec des statuts très diversifiés, des fonctionnements très diversifiés, mais qui agissent toutes dans le sens d'un monde plus solidaire et plus écologique. Mmh. On sait qu'il y a une de ces structures qui a un besoin qui correspond à l'envie de cette personne, on les met en lien. S'il n'y a pas de besoin qui existe, on va chercher ailleurs, avec la personne, une structure qui correspond, soit qui est proche de chez elle, soit qui est dans le secteur qu'elle a envie d'investir. Voilà. Je peux vous donner quelques exemples, peut-être. Mmh. On a, parce que les exemples sont assez diversifiés, on a des personnes qui s'engagent sur le long terme. On a une personne qui s'appelle Nidarchini, qui habite dans les Yvelines. Quand on l'a rencontrée, alors nous, il faut le dire, hein, les Yvelines, on ne connaît pas du tout. On n'avait pas du tout de contact là-bas. Elle voulait s'investir sur le handicap, dans une structure. Elle, ce qu'elle m'a dit quand elle est arrivée, c'est « moi, j'ai envie de devenir Mère Teresa ». Oui. Bon, c'est ambitieux. Un petit peu ambitieux pour nous.
Et puis là, la faire contacter Mère Teresa, c'est pas très facile.
Voilà,
là, maintenant.
Mais on lui a dit « ok, pas de souci, l'ambition, ça ne nous fait pas peur ». Il se trouve qu'on connaissait personne dans les Yvelines, mais du coup, avec elle, on est allé chercher dans les Yvelines ce qui existait sur le domaine du handicap. On a contacté les structures en leur demandant « est-ce que vous accueillez des bénévoles ? Si oui, comment ça se passe ?» Et là, la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, elle a signé une convention de bénévolat dans un centre qui travaille avec des personnes handicapées. Et elle anime des ateliers de peinture là-bas toutes les semaines. Donc, pas à pas, elle devient peu à peu Mère Teresa.
Voilà.
Donc ça, c'est un cas. On a un autre cas d'une personne, d'un monsieur qui s'appelle Pablo, qui nous vient d'Europe de l'Est et qui arrive en France, qui, bon, il parle pas très très bien français, il connaît pas grand monde, mais c'est un bricoleur hors pair. Il est électrotechnicien de formation, il sait bricoler, il sait réparer, il sait faire plein de choses. Et on l'a mis en lien avec des associations, alors plutôt à Paris, parce que là, il habitait à Paris, qui cherchaient des personnes, soit pour rénover des locaux, soit pour... On a eu une porteuse de projet qui avait un camion dans lequel elle faisait de la cuisine pour les personnes en difficulté, et fallait réparer le camion avant de le mettre en circulation. Donc Pablo est venu aider pour réparer le camion sur la partie électrotechnique. C'est hyper rare de trouver un électrotechnicien qui peut nous aider comme ça quand on n'a pas...
J'imagine. Voilà. Et ça a marché.
Et ça a marché. Hein,
Carole.
Vous nous parliez tout à l'heure, hors antenne, de deux personnes qui sont décoratrices et qui cherchaient justement également à s'engager bénévolement.
Mmh. C'est l'année dernière, on a accompagné deux personnes qui voulaient être décoratrices d'intérieur. C'était assez drôle parce qu'elles n'avaient aucune expérience. En fait, elles ont vu ça sur M6 et ça leur plaisait énormément.
Elle voulait devenir Valérie Damido. Il y en a qui veulent devenir Mère Teresa, d'autres Valérie Damido.
C'est ça, il y a des cas très très différents. Au départ, leur envie, c'était d'aller aux côtés d'une décoratrice d'intérieur qui agit, qui fait des choses pour apprendre. Et puis petit à petit, elles se sont rendues compte qu'il y avait plein d'associations qui voulaient rénover leurs locaux parce que, voilà, il y a des locaux associatifs, parfois on n'a pas toujours les moyens de les décorer ou alors le temps, ils sont un petit peu tristounes. Et elles habitaient à Pantin dans le 93, et du coup, elles se sont mises toutes les deux, elles sont allées voir deux assos qui avaient des locaux pas top, on va dire, voilà. Et elles ont, alors l'association leur a donné un petit budget quand même pour payer le matériel, bien sûr, et elles ont entrepris toutes les deux de redécorer les locaux de ces associations-là.
Finalement, c'est bien parce que vous voyez les choses en plus évoluer, vous, de votre fenêtre. Et j'ai comme l'impression que autant vous aidez les personnes à devenir, à s'engager, hein, de façon citoyenne, mais autant vous-même, ça vous aide également. Il y a un vrai enrichissement des uns vers les autres et vice-versa, j'ai l'impression, réciproquement.
Ah bah oui, complètement, hein. Enfin...
Vous disiez tout à l'heure, on connaissait pas les Yvelines, on savait pas exactement comment s'y prendre, et finalement ça a fonctionné.
Oui.
Donc vous apprenez de ceux qui viennent vous voir.
Nous, il y a notre philosophie, c'est que non seulement il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, mais il n'y a même pas de problème, il n'y a que des opportunités. Quand Nidarchine est venue nous voir en nous disant « Moi, j'ai envie de m'engager, mais j'habite dans les Yvelines, Paris, ça fait trop loin », on s'est dit « Mais pas de problème, de toute façon, plus on connaît d'associations et plus notre action, elle sera efficace. » Donc là, c'est l'occasion d'aller voir ce qui se passe dans les Yvelines, ce qu'on n'aurait sûrement pas fait si Nidarchine n'était pas venue nous voir.
Ça veut dire que vous êtes à remettre votre plus bel ordinateur, que vous avez commencé à fureter du côté des Yvelines, savoir exactement ce qui existait. Comment on fait dans ces cas-là quand on connaît personne?
Bah, notre ordinateur et notre téléphone.
Oui.
Parce que c'est vrai qu'on fonctionne beaucoup aujourd'hui, ça passe beaucoup par le numérique et par mail. Nous, les premiers, hein, on communique beaucoup par mail. Mais on se rend compte que si on a envie que notre action elle soit efficace, parce qu'une personne qui veut s'engager, il faut lui donner une réponse rapidement. Elle va pas attendre un mois ou deux mois avant de trouver une structure qui lui correspond, ça va la décourager.
On peut démotiver des personnes si on ne trouve pas des solutions pour elles très rapidement.
Et nous, notre action, elle vise à pallier ces défauts-là, parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui veulent s'engager et puis elles s'essoufflent au bout d'un moment. Donc on voulait surtout pas reproduire ces défauts-là et on se donne un délai maximum d'une semaine, 10 jours dans les cas les plus difficiles, mais maximum une semaine, pour donner des nouvelles à la personne et voir avec elle là où elle pourrait s'engager. Donc dans ce cas-là, le mieux, c'est encore de prendre son téléphone, d'appeler les structures et de leur demander si elles ont des besoins actuellement.
Alors vous disiez tout à l'heure, Asteria aide des personnes qui n'ont pas les codes. Et ça peut faire peur, ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas être bénévole tout simplement si on ne connaît pas la façon de fonctionner, quoi. Des associations en général, qu'est-ce que c'est que ces codes?
Des associations en général et des associations en particulier. Parce que même chaque asso et chaque collectif a ses particularités, sa manière de fonctionner. Hein? Nous, notre avis, c'est pas tant qu'il faut connaître les codes pour s'engager, c'est pas tant ça. C'est plutôt qu'il faut avoir conscience que c'est pas forcément comme on va l'imaginer.
C'est ça. Et dans ces cas-là, effectivement, Asteria peut être d'une aide très précieuse. On va continuer à parler d'Asteria. Évidemment, on est là pour ça, jusqu'à 11h. On va le faire après une pause musicale sur Vivre FM.
La vie des associations jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Vivre FM donne la parole aujourd'hui dans la vie des associations à l'association Asteria et à Blandine Sillard qui est l'une des cofondatrices et chargée de développement de l'association. Alors, vous organisez des rendez-vous hein, pour aider les personnes justement à faire qu'un jour elles puissent mener à bien leur projet ou qu'elles puissent intégrer une association parce qu'elles ont désir de devenir bénévoles au sein d'associations. Mais il n'y a pas que les rendez-vous qui comptent. Je sais que vous organisez des événements, vous faites des ateliers, vous faites des vidéos également. Dites-nous tout ça, Blandine.
Oui, l'accompagnement, c'est vraiment notre cœur de projet. Mais c'est de l'accompagnement individuel et il n'y a pas que ça. On a des formats d'accompagnement collectif avec des ateliers qu'on anime dans des établissements sociaux ou dans des lieux ouverts au public. On a des événements qui promeuvent l'engagement citoyen sous toutes ses formes, les mille et une manières d'agir, comme on aime dire, notamment les cafés des envies d'agir.
Qu'est-ce que c'est que ça, ces cafés des envies d'agir?
Les cafés, en fait, ça part d'un constat assez simple. On s'est dit, voilà, historiquement, on a toujours refait le monde autour d'un verre, dans un bar, entre amis. Et assez intuitivement, si on réunit autour de la table des personnes qui ont envie d'agir sur une même thématique, des personnes qui ont envie, mais aussi des personnes qui agissent déjà ou qui ont déjà agi, il devrait bien se passer quelque chose. Donc on s'est lancé comme ça en se disant, on prend une thématique, on prend un lieu, on met en place un cadre convivial et on permet aux personnes d'échanger. Donc là, prochainement, le prochain c'est le 9 juin. C'est sur se déplacer durablement, comment agir pour se déplacer durablement. Et on se dit, on va mettre autour de la table des personnes qui réfléchissent aux modes de transport alternatifs, des personnes qui en développent, des personnes qui en utilisent. Et puis, en les faisant échanger entre elles, les personnes qui cherchent trouveront des solutions, les personnes qui ont besoin de monde trouveront des personnes pour les rejoindre.
Ouais.
On a ça.
Où va-t-il se passer? Voilà justement la question.
Dans le 18e arrondissement, c'est à l'auberge de jeunesse Yves Robert, qui est située au niveau de la Halle Pajol.
Et ce sera quand?
Le 9 juin.
Ce sera le 9 juin. On en a un autre le 22 qui est dans le kiosque citoyen du 12e arrondissement de Paris, donc sur la place Félix Éboué, métro Daumesnil, qui sera sur comment agir pour le handicap dans le cadre du mois extraordinaire qui a lieu tout le mois de juin.
Tout le mois de juin, oui.
C'est à quelle heure? C'est le soir, l'après-midi?
C'est le soir. Alors quand c'est en semaine, c'est le soir. Quand c'est le samedi, c'est en après-midi. Voilà. On a envie que ce soit accessible à tout le monde, y compris aux gens qui travaillent.
Et c'est gratuit, à part la consommation.
À part la consommation.
Alors, c'est gratuit. Alors, quand ça se passe dans un bar, la consommation est payante pour le bar. Après, l'entrée est bien évidemment gratuite. Donc, le 9 juin, il y a effectivement un verre à prendre au bar associatif de l'Auberge de Jeunesse. Mais on a une carte adhérente, donc il y a des prix moins chers. Et celui du 22 juin, le kiosque du 12e offre le café. Donc là, il n'y a même pas de consommation à payer. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas venir.
Et absolument, absolument. Donc, c'est ponctuel pour l'instant, ça n'est pas régulier. Enfin, c'est pas le deuxième samedi du mois.
Non, on va vers ça. Avec certains partenaires, d'organiser des cafés régulièrement en changeant les thématiques. On va vers ça. Pour l'instant, c'est plutôt ponctuel au gré des opportunités.
Et donc, qu'est-ce qui marche le mieux auprès du public ? Est-ce que c'est tout ce qui est écologique ? Est-ce tout ce qui est politique ?
Honnêtement, il y a un peu de tout. C'est sûr que l'écologie marche beaucoup. Mais là, par exemple, le 2 avril, on en a organisé un sur comment agir pour plus de démocratie en 2016 et après.
Vaste programme.
Voilà, donc ce n'était pas particulièrement écologique. Et il y a eu beaucoup de monde, dont des personnes qui sont venues d'Orléans.
Pour le café.
Oui. Donc il y a vraiment eu. Enfin, pour le café, je sais pas. Hein, je pense qu'ils passaient aussi leur week-end à Paris, qu'ils ont vu cet événement et qu'ils sont venus. Mais non, vraiment.
Et vous comptez justement recueillir, enfin, je sais pas, garder, parce qu'il y a des solutions. J'imagine qu'il y a des vrais moments tout à fait intéressants et des choses dont il faudrait conserver le souvenir, pouvoir garder ça sur papier, je ne sais pas, ou faire une vidéo de telle façon à ce que ça reste, à ce qu'on puisse s'en servir de ces idées.
Alors, on les garde. Déjà, nous, ça nous sert dans l'accompagnement individuel. On a un exemple très simple, hein. En janvier, on en a fait un sur les réfugiés. Deux semaines après, même pas 10 jours après, une personne me contactait en me disant « Moi, j'ai envie d'agir pour les réfugiés, comment je peux faire ?» On avait toutes les réponses.
Vous vous êtes inspiré justement de ces réponses, de ces idées qui ont fusé, j'imagine, lors de ce café des envies d'agir.
Donc ça nous sert à nous, c'est disponible sur notre site. Donc si des personnes se posent la question et puis n'ont pas forcément envie de nous contacter parce qu'elles sont un peu timides ou qu'elles n'ont pas le temps, elles peuvent aller chercher l'information sur le site. Pour l'instant, on l'utilise comme ça. Après, on est plein de ressources et de créativité, donc c'est pas impossible qu'on l'utilise autrement.
Et pour les personnes qui voudraient justement créer leur propre débat, qui viennent vous voir, par exemple, Benjamin veut créer un débat sur la SNCF et les difficultés pour les voyageurs. Comment vous faites ? Comment vous l'aidez ?
Sur ces cafés, par exemple, on a une personne qui coordonne ces cafés-là, dont le rôle est d'organiser des cafés et de communiquer dessus, mais dont le rôle est aussi d'accueillir les personnes qui ont envie d'en organiser ou qui ont envie d'en animer, des bénévoles, des membres d'Astéria qui auraient envie de faire quelque chose, et de les accompagner dans la mise en place de ce type d'événement. Dans l'esprit d'Astéria, nous, notre idée, c'est bien d'aller identifier des manières d'agir et des solutions, pas seulement d'échanger sur les problèmes. C'est très important d'échanger sur les problèmes, ça, on est bien d'accord là-dessus, mais nous, on veut que les cafés, ça nous permette de déboucher sur l'identification.
C'est ça, c'est pas uniquement pour se plaindre, pour dire voilà ce qui va pas, il faut aussi parler de la façon dont on pourrait procéder pour que ça aille mieux.
Voilà, d'où l'importance d'avoir une personne qui coordonne ces cafés dans l'esprit et peut accompagner les gens qui ont envie d'en organiser.
Alors, Café des envies d'agir, ça c'est une chose. Moi, je vais en organiser un. Oui, vous avez raison, sur la SNCF. Alors, rendez-vous à la voiture 14.
Hein. Très bien, on y sera.
Des ateliers également, vous faites des ateliers, vous organisez des... Alors, ces événements, j'imagine, les événements auxquels vous faisiez allusion dans la petite note explicative que vous nous avez donnée, ce sont justement ces Cafés des envies d'agir.
Oui, les Cafés des envies d'agir. Sur les ateliers, il y a deux versions. On a des ateliers dans des établissements sociaux. On anime des démarches participatives collectives. Là, on en a une en cours au centre d'accueil de jour qui est dans le 18e. Un petit groupe de 5-6 personnes. Donc, c'est des personnes qui sont cérébro-lésées après un accident de la vie. Et un petit groupe de 5-6 personnes qui avaient envie de mener une action bénévole, solidaire, ensemble. Donc, on les a accompagnées. On a identifié avec elles une thématique sur laquelle elles avaient envie de s'engager. On leur a présenté différentes possibilités. Elles ont choisi ce qu'elles avaient envie de faire. Et il se trouve qu'elles vont organiser une disco-soupe sur les bords du canal de l'Ourcq. On n'a pas encore de date.
Donc, c'est original, en tous les cas.
À suivre sur l'actualité de...
Ah bien. Avant de se mettre au bouillon dans le canal, la disco-soupe.
C'est ça.
D'accord.
Et ça devrait arriver avant l'été.
Très bien. Des vidéos également, vous réalisez des vidéos, c'est ça ?
Oui, on lance notre pôle vidéo incessamment sous peu. On a organisé la première projection hier soir, donc c'est vraiment tout neuf.
Ah bah c'est tout neuf.
Le premier format, c'est un format qui s'appelle les aléas solidaires. Et le but, c'est de mettre en scène sur des petites scénettes de 2-3 minutes, très humoristiques, des mauvaises expériences d'engagement citoyen. Ça fait suite à un événement qu'on a organisé l'année dernière de partage des mauvaises expériences, pareil, avec beaucoup d'humour, une troupe de théâtre d'impro qui faisait un petit spectacle à la fin en reprenant tout ça. On en a extrait certaines expériences particulièrement marrantes et on en a fait des courts-métrages avec des petites notices explicatives. Hein. L'idée, c'est pas seulement de se dire, il y en a un sur, je dévoile un peu, mais il y en a un sur des réunions interminables. On a une petite notice derrière avec des conseils pour animer une réunion pour justement qu'elle ne soit
justement qu'elle ne soit pas interminable et surtout qu'elle ne soit pas minable. J'espère que vous ne considérez pas la nôtre comme minable. Elle ne sera pas interminable, elle va bientôt se terminer, mais tout de même, on va faire une pause musicale et revenir avec vous pour que vous continuiez et terminiez de nous parler de votre association Asteria sur Vivre FM.
La vie des associations jusqu'à 11h sur Vivre FM.
Il ne nous reste que quelques minutes à passer en compagnie d'Asteria, représentée par sa cofondatrice, l'une de ses cofondatrices et chargée de développement, Blandine Sillard. Alors, en plus de tout ce que vous nous avez dit, organisé, hein, les vidéos, les ateliers, les événements, vous organisez également, vous animez également des formations.
Oui, tout à fait. On anime des formations sur deux axes principalement. L'animation collective et participative, comment animer un débat, une réunion, un atelier. Et mobiliser et fédérer autour d'un projet, oui. Notamment des bénévoles, parce que ce n'est pas toujours facile de mobiliser des bénévoles sur un projet.
Alors ça, c'est plutôt pour le grand public, c'est pour des structures, c'est pour qui
On a différents formats, on a des formats, le principal format, c'est des formations ouvertes, donc qui s'adressent à tout le monde, le grand public, des citoyens intéressés, même des simples curieux. Ça peut être des bénévoles associatifs, mais ça peut aussi être des personnes...
La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut, hein. Parfois,
exactement.
Ça peut mener, effectivement.
Qu'on organise à des dates... qu'on organise ponctuellement. En général, il y en a au moins 2 par mois.
Ce sont des formations payantes ?
Ce sont des formations payantes. À un coût qu'on veut accessible, on a un tarif de base et on a un tarif préférentiel qui ne demande pas de justificatif particulier. On n'est pas du tout dans le flicage. C'est la personne qui estime qu'elle n'a pas les moyens de payer le tarif complet. Elle peut prendre le tarif préférentiel sans avoir à justifier de quoi que ce soit. Et après, on a effectivement des formations pour des collectivités, pour des entreprises... pour des associations aussi, des centres sociaux notamment.
Par exemple, quels sont les thèmes de ces formations ?
Les mêmes, animation, animer une réunion, animer un atelier et mobiliser, fédérer autour d'un projet. Voilà.
Combien de temps dure une formation ?
De 3 heures à une journée. Encore une fois, il y a différents formats. La formation sur l'animation, elle dure 3 heures. La formation sur mobiliser, fédérer autour d'un projet, on peut la faire en 3 heures, mais on préfère la faire sur une journée.
D'accord.
Elle est plus riche.
Dans ces cas-là, effectivement, on en réfère à vous. Et de toute façon, vous le disiez, hein, à peu près 2 formations par mois, c'est ça ?
C'est ça. Hein ? On a des formations civiques et citoyennes aussi pour les volontaires en service civique. Donc pour les associations qui accueillent des volontaires ou les volontaires individuellement qui voudraient se former. Voilà.
Et vous avez vous-même, au sein de votre association Asteria, des volontaires civiques ?
Oui, tout à fait, on en a 5.
C'est assez, ça ?
C'est assez parce que ça demande aussi du temps d'accompagnement, de formation. Donc il faut une personne tutrice pour pouvoir accompagner ces jeunes dans le bon déroulement et la bonne réalisation de leur mission.
C'est assez pour ce qui est de l'aide, effectivement, et que ces personnes peuvent vous apporter, et que vous pouvez apporter à ces personnes qui viennent du service civique. Mais quant aux bénévoles, vous avez assez de bénévoles au sein de l'association, ou vous en recherchez, pour quelles tâches vous dédieriez ces bénévoles? Quelles tâches vous dédieriez ces bénévoles?
On en cherche toujours parce qu'on a on a certaines tâches, certaines missions, je pense notamment au Café des Envies d'Agir, qui sont pas limitées. Plus on aura de bénévoles et plus on aura de cafés et plus on abordera de thèmes et plus en plus de personnes s'engageront. Donc ça fait vraiment partie des tâches où on se dit pas il nous faut 10 bénévoles. Non, c'est voilà, plus on en a et mieux ce sera.
Très bien. Donc que les choses soient dites, on donnera à la fin de l'émission vos coordonnées évidemment. Et puis alors je sais que vous recherchez un piano.
Oui.
Alors, comme ça, on pourrait avoir l'impression que qu'est-ce qui se passe ? Ça n'a pas de rapport avec votre activité, mais si, dans le cadre de votre activité d'aide justement aux personnes, vous recherchez un piano.
Oui, on a une personne qui nous a contacté, qui joue du piano, qui joue très très bien du piano et qui voudrait s'engager dans un bénévolat qui comprend le fait de faire du piano, donc soit faire des ateliers d'initiation et d'éveil auprès d'enfants, soit voilà, jouer du piano pour des publics en difficulté ou je ne sais, enfin en tout cas une association qui a un piano et un public auprès de qui jouer ou à qui faire découvrir le piano, et c'est pas très facile à trouver.
Ben oui, j'imagine, effectivement, il y a pas mal de structures, il y a de plus en plus de structures maintenant où il y a un piano, notamment des maisons de retraite, mais il faut peut-être aussi que la personne qui joue du piano puisse jouer des airs, des chansons qui correspondent aux âges des personnes qui peuplent ces maisons de retraite, par exemple.
Ben c'est ça, il faut déjà trouver une association qui a un piano ou qui peut en mettre à disposition, et puis que les besoins de cette association-là correspondent à la capacité des personnes, de la personne qui nous sollicite.
Mais la personne pour laquelle vous recherchez un piano, elle connaît le piano, elle est en capacité de l'enseigner, en tous les cas d'initier, par exemple, vous le disiez, des enfants ou des personnes un peu plus âgées qui voudraient, pourquoi pas, se mettre au piano pour le simple plaisir de jouer du piano.
D'initier plus que d'enseigner, hein, pour être tout à fait honnête, je pense qu'être prof de piano, ça ne s'invente pas non plus.
C'est sûr.
Donc voilà, plutôt de l'initiation et de la découverte. Mais bon, c'est déjà très bien pour,
mais pourquoi pas,
pour des gens qui n'ont pas accès à la musique.
Là encore, on vient jusqu'à vous. Vous donnerez les coordonnées de votre association en fin d'émission. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur votre association Asteria que vous souhaiteriez qu'il soit dit avant de nous quitter ?
Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit ? On a dit beaucoup de choses.
On a dit pas mal de choses.
Quel est le public, justement, votre public, puisqu'on a vu que les cafés s'adressaient à toute la population, mais votre public est peut-être un petit peu plus restreint. C'est un public qui ne connaît pas bien les actions citoyennes ou qui a besoin d'aide ?
Oui, à l'origine, quand on a créé l'association, notre idée, c'était vraiment de se dire, on va aller vers les gens... qui, pour une raison ou pour une autre, sont éloignés des questions de citoyenneté, de participation citoyenne traditionnelle. Donc ça peut être pour des raisons culturelles, matérielles, voilà, il y a énormément de raisons.
Il peut y avoir pas mal de freins, oui.
Et on a commencé, l'accompagnement qu'on propose, on a commencé par le proposer dans des établissements sociaux. Donc principalement auprès de personnes migrantes, dont des demandeurs d'asile, des personnes qui n'ont pas le droit de travailler en France, mais qui ont plein de talents et de ressources et puis du temps malgré tout, le temps que leur procédure aboutisse. Mmh. Et là, on intervient de plus en plus dans des centres qui travaillent avec des personnes handicapées. Donc ce centre d'accueil de jour qui travaille avec des personnes cérébro-lésées, mais aussi des personnes aveugles ou voilà, infirmes moteurs cérébrales. Enfin, il y a plein de cas différents.
Et sachez que ce qu'on n'a pas dit, vous avez toujours l'opportunité de le redire, de le dire plutôt, une autre fois sur l'antenne de Vivre FM. N'hésitez pas à nous faire part de vos prochains cafés, hein, ça c'est important, les cafés des envies d'agir. Alors pour arriver jusqu'à vous, comment fait-on ?
Bah, le mieux, c'est de nous contacter par mail, ou d'aller sur notre site aussi. Sur le site, sur la page contact, vous avez soit l'adresse mail, soit un petit formulaire si vous préférez.
Asteria, Asteria.
.eu.
Très bien, .eu, ça c'est pour l'Europe. Très bien, bah Blandine, on vous souhaite bonne continuation et puis bravo pour ce que vous avez déjà fait parce que l'association n'a que 1 an, il ne faut pas l'oublier.
Merci beaucoup.
Et ça progresse, ça croît et ça embellit. N'hésitez pas à nous donner toutes les informations et qui vous concernent.